Bonjour à toutes et à tous, ça me fait bien plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes à Chartres en compagnie de Véronique Domagalski, guide conférencière de l'Office de tourisme de Chartres. Et tout au long de cet été, elle évoque pour nous les secrets et les mystères de la cité des Carnutes. La dernière fois, nous nous sommes quittés avec Véronique alors que nous étions devant la Maison du Saumon à Chartres, siège de l'Office de tourisme de Chartres Métropole. Et, Véronique évoquait pour nous cette époque terrible de la guerre de 100 ans. Reprenons le récit là où nous l'avons laissé.
N'oublions jamais que ce 14e siècle, cette période de la guerre de 100 ans, c'est la période qu'on appelle la période des fléaux. C'est l'apocalypse qui était tombée sur l'Europe avec tout d'abord la guerre, premier fléau, ensuite la famine.
La famine.
La pestilence, la peste et la mort. Vous voyez ? Et c'était ça, la guerre de 100 ans. C'est pour ça, d'ailleurs, que les danses macabres, moi, j'encourage toujours, lors de nos visites, à aller voir l'église de Mélay-le-Grenet. Mélay-le-Grenet, qui est maintenant accessible au grand public. J'y suis allée il n'y a pas longtemps, donc je peux vous dire. C'est génial parce que on a un petit sas qui est ouvert, qui vous permet, donc sans rentrer dans toute l'église, vous rentrez, vous avez un sas vitré et vous voyez tout ce qu'il y a autour. Donc on voit cette danse macabre. Avec...
Juste pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien les danses macabres, ce sont des fresques hein, finalement sur les murs voilà. Des églises.
Ce sont des peintures qui ont été réalisées en fait vers la fin de la guerre de 100 ans. On a commencé donc à Paris, hein, au charnier des Innocents, le cimetière des Innocents de Paris. Donc au début du 15e siècle, on a eu ces danses macabres. La mort étant omniprésente, eh bien les gens en fait l'illustraient. La mort frappe n'importe qui. Du plus puissant au plus pauvre. La danse macabre de Mélay-le-Grenet, qui est, je le rappelle quand même, un des rares exemples parfaitement, on va dire, visible. J'allais dire parfaitement conservé, c'est pas le cas parce qu'elle a été parfaitement restaurée, hein, mais elle a été bien remise en état. On a plusieurs danses macabres dans toute l'Europe, mais celle-ci fait partie des remarquables. Et donc la danse macabre de Mélay commence. On a une petite histoire qui est racontée avec le dit des trois chevaliers. Ces trois chevaliers sont trois jeunes gens qui rencontrent trois squelettes. Et les squelettes leur disent, ben voyez, tel que vous êtes, nous étions, et tel que nous sommes, vous allez être.
Ouais, on nous ramène à la réalité.
Réalité, vous êtes peut-être beau, bien vivant, mais vous allez être cadavre à un moment donné. Qui que vous soyez. Et donc, on commence la procession avec un squelette qui entraîne le plus puissant de la terre, le pape. Ensuite, c'est l'empereur. Après, on a le cardinal, on a le roi, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, vous avez l'ermite et le bébé. L'ermite, c'est le plus humble, le plus pauvre, et le bébé, le plus innocent. Tout le monde y passe. Ouais.
Vraiment, on était ramené à la réalité de la finitude, c'est ça, de l'être humain. Contrairement à aujourd'hui, hein, où on est vite effrayé.
On est effrayé. À cette époque-là, la mort n'était pas quelque chose... c'était terrible, mais c'était quelque chose qui était quotidien. Donc, on n'avait pas le même ressenti. Les gens, pour eux, quelqu'un qui avait plus de 60 ans, qui mourait, bah, il avait eu une belle vie, paix à son âme, et on priait pour lui, bien évidemment. On le pleurait une journée, et puis après, on repartait à la réalité. Il n'y avait pas ce deuil profond que nous faisons, nous, avec ce 21e siècle, où c'est la vie qui est dominante.
On a le sentiment que la vie est indue, alors que c'était un miracle un peu à l'époque.
À l'époque, c'était un miracle. Et particulièrement en période de crise, de famine et de détresse. Donc voilà, moi j'encourage, c'est l'été, aller voir la danse macabre de Mélay. Et à la limite, après cette période de confinement, ça nous ramène à la réalité de la vie. c'est très étrange. Moi, quand je commente toujours cette danse macabre, je dis oui, c'est la mort qui part en procession, mais on termine par une note qui est plutôt drôle, c'est que tout au fond de l'église de Mélée, vous avez dans les peintures trois femmes qui bavardent pendant la messe. Et je trouve que ça, ce petit clin d'œil, finalement, c'est la vie qui revient.
C'est sur un mélange d'humour. Le Moyen-Âge est merveilleux pour ça, une grande poésie.
Il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de force aussi. Les gens n'étaient pas aussi taciturnes qu'on veut bien le montrer. D'ailleurs, imaginez, dans les périodes de marché, on avait des troupes de comédiens ambulants, on raconte dans nos visites, ces comédiens ambulants qui installaient leurs tréteaux et puis qui jouaient des pièces. En général, c'était toujours des gaudrioles où on montrait son derrière, où on montrait ses parties au public et on rigolait. C'était assez vert, assez gras, assez lourd, mais bon, c'était la vie.
On travaillait beaucoup et on festoyait beaucoup aussi.
Oui, oui. Alors le travail était quand même très important. On va relativiser sur le travail des baptiseurs, c'était pas du 7 jours sur 7, 24-24. On avait des longues pauses quand il pleuvait, quand il y avait des intempéries au niveau des chantiers de cathédrales par exemple. Mais pour les villes, les échoppes c'était à peu près du 6 jours sur 7. Sauf, attention mon cher Christophe, pendant les périodes de fêtes religieuses, qui étaient considérées comme des dimanches. Or, on avait plus de 50 fêtes religieuses chômées. Donc, en fait, ils avaient des pauses. Hein. Voilà, faut relativiser aussi. Alors, bien évidemment, c'est pas comme maintenant.
On nous critique pour les 35 heures, je veux pas dire, mais bon. Hein.
Ils en étaient pas loin. Sauf qu'eux n'étaient pas payés. Nous le sommes quand nous sommes en repos. Eux, le chômage n'était pas payé. Voilà, c'est toute la différence. Il y avait beaucoup plus de pauvreté que de nos jours. Mais les gens savaient s'amuser et c'était plutôt pas mal. Donc quand on est ici, je raconte cette guerre de 100 ans, donc avec ses fléaux. Et je raconte l'étrange arrivée d'Édouard III d'Angleterre qui s'approchait de Chartres. Il était à Galardon. Nous étions en avril, je vais vous donner la date, 13 avril 1360. 13 avril 1360, Édouard III est à Galardon et il veut venir à Chartres et prendre la ville de Chartres. Alors on sait comment Édouard à l'époque prenait les villes. C'était une politique de chevauchée. Et les chevauchées, c'était qu'on pille, on saccage, on prend et on détruit.
Juste une petite parenthèse. Est-ce que c'est le Édouard dont il est question dans le film Braveheart, où on s'aperçoit que c'est un roi, mais terrifiant, terrible et cruel?
Alors, dans Braveheart, c'est le grand-père. C'est Édouard Ier. C'est Édouard Ier. Édouard III, on l'évoque... Mais d'une manière très romancée dans la suite des Piliers de la Terre, Un monde sans fin. Ken Follett, qui est une bonne lecture d'été, je conseille. C'est du roman, hein. On n'a pas une réalité très authentique derrière. Les historiens pourraient hurler, mais comme livre à prendre sous le coude à la plage, je pense que c'est plutôt agréable et c'est sympathique de se plonger dans cette époque. Donc, Édouard III, pour tout vous poser au niveau du personnage, roi d'Angleterre, sa mère est une Française, c'est Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, donc il est fils de France autant que fils d'Angleterre. Édouard a revendiqué la couronne de France au moment de la mort justement de Charles IV le Bel, le dernier Capétien direct. Et lui se dit, ben, ma mère est la sœur de Charles, donc la couronne est pour moi. Mais sa mère, c'est une femme, Lois Salic, c'est le cousin Philippe de Valois qui hérite de la couronne et qui prend le titre de Philippe VI. Les Valois prennent le pouvoir en France. Édouard, évidemment, ne l'entend pas de cette oreille, ne veut pas rendre hommage au nouveau roi de France. Évidemment, la guerre est inévitable. On rentre dans une période de crise et guerre de 100 ans commence. Ici, dans notre région, on est dans une période où ça va traverser. Parce que, évidemment, il y a le nord et le sud. Et nous, on est au milieu. Vous savez, c'est la route des vacances, hein, Chartres. Donc, ici, Édouard arrive pour prendre Chartres. Ici, on sait que s'il prend Chartres, la moitié de la ville va être détruite. Pillée, ravagée. On sait qu'il y a les écorcheurs dans la région. Les écorcheurs, ce sont ces armées de mercenaires qui, lorsqu'ils ne sont pas payés, eh bien, se servent dans les fermes.
En écorchant ?
En écorchant les paysans. Bah oui, on se sert, donc on tue en même temps. Donc tout ça, et on vit dans la grande angoisse. Et on a un chroniqueur qui est originaire du Hainaut de Valenciennes, qui s'appelle Jean Froissart. Froissart, c'est un de ces chroniqueurs qui accompagnait les nobles et qui racontait
les hauts faits.
Comme il était du Hainaut, il était rattaché à la couronne d'Angleterre, donc il accompagnait Édouard. Non, il était français, mais il était soutien des rois d'Angleterre. Après, il va revenir en France. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs. Et donc, Froissart est avec Édouard sur la route de Galardon à Chartres. Et là, le ciel s'obscurcit, il devient noir. Le vent commence à tourbillonner, des éclairs à zébrer le ciel. Et Froissart nous dit qu'il tombait des grêlons qui tuaient hommes et bêtes. Vous imaginez la terreur. Un orage apocalyptique s'était abattu sur toute l'armée du roi d'Angleterre. Et Édouard s'est mis à genoux. Il avait vu la flèche de la cathédrale, la flèche sud. Et dans la direction où il avait vu pour la dernière fois cette flèche sud, il s'est mis à prier, à implorer Marie. Et il s'est juré que si Marie l'épargnait, il rendrait hommage à Chartres et il ferait la paix ici. Il a prié. L'orage s'est calmé. L'armée avait été épargnée. Édouard a tenu parole. Il est arrivé à Chartres, il a prié en la cathédrale. Et le 8 mai 1360, peu de Chartrains le savent, que c'était chez nous. 8 mai 1360, le traité de Brétigny. Les Parisiens chauvins diront c'est Brétigny-sur-Orge. Et les Chartrains doivent revendiquer ces Brétigny près de Sours. Notre Brétigny à nous, où il y a une petite borne qui dit « Ici, le roi d'Angleterre a signé la paix ». On a signé ce traité qui mettait fin à la première partie de la guerre de Cent Ans.
Une superbe pièce très ancienne. interprété par l'ensemble François Ier. Et à présent, courons vite à la maison du saumon, siège de l'Office de tourisme de Chartres Métropole, où nous attend Véronique Domagalski, guide conférencière de l'Office pour la suite de cette balade en été consacrée, je vous le rappelle, aux secrets et mystères de la ville de Chartres. Véronique vient de nous narrer cet épisode assez surprenant et peu connu de l'histoire de la guerre de Cent Ans, cet orage de grêle à Galardon qui a permis tout simplement d'éviter le sac de Chartres par les armées d'Édouard, le roi d'Angleterre.
Et là, enfin, on pouvait respirer un peu.
Vive le mauvais temps.
Vive le mauvais temps et vive Notre-Dame de Chartres. Parce que bien, c'est ce qui a permis aussi de sauvegarder cette belle cathédrale. On va avancer. Je vais vous emmener un petit peu plus loin. Alors ici, lorsqu'on fait nos visites nocturnes, j'ai ma collègue Claire, qu'on appelle Dame Clairette. Et Dame Clairette, quand la nuit choit, eh bien, se costume telle les dames d'autrefois. Et là, elle raconte sa vie passée. Alors elle se promène avec son petit panier et elle explique un peu les outils, les ustensiles, comment on se coiffait. Vous voyez, pendant la nuit, on a des petites histoires comme ça qui s'accumulent sur ces découvertes du Moyen-Âge. C'est une manière, en fait, de découvrir le Moyen-Âge autrement.
Oui.
C'est
vivant.
C'est vivant.
Le Moyen-Âge était très vivant, vous venez de nous le dire.
Exactement. Et Claire, je lui rends un hommage extrême. On a beaucoup travaillé ensemble sur ces visites nocturnes. Et Claire, en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur le costume. Donc elle explique son costume, elle explique chaque partie, son capuchon, son bliot. Elle explique vraiment tout cela. Et elle raconte comment elle vit. Parce que je ne dis pas comment on vivait, elle raconte comment elle vit, puisqu'elle est une femme du Moyen-Âge. Et c'est ça qui est prodigieux, c'est qu'on nous entraîne dans l'autre époque, on tire par la main, et c'est vraiment fantastique. Je l'ai faite, hein, moi, cette visite, en tant que touriste. Donc c'est pour ça que j'en parle avec chaleur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passion. Vous le savez, parce que vous nous suivez depuis quelques années, mon cher Christophe, avec mes collègues, nos métiers, ce sont des métiers de passion.
Vous y mettez beaucoup plus que ce qu'on pourrait s'attendre.
Oui, c'est vrai qu'on nous a toujours dit, oui, le guide, c'est quelqu'un de poussiéreux, le guide, c'est quelqu'un qui montre les différents monuments comme ça. Mais non, le guide, c'est quelqu'un qui vit sa passion. Et je pense qu'on a toutes vécu un confinement terrible parce que, justement, on était frustrés de ne pas avoir nos gens à qui communiquer notre envie. Une autre visite que je peux vous évoquer, on fait des visites du quartier épiscopal. Parce que nous allons rentrer, attention à vous, nous allons rentrer dans le quartier proche de la cathédrale. Et proche de la cathédrale, il y a des portes. Il y avait 9 portes qui fermaient tout ce quartier, qui séparait en fait la cathédrale du reste de la ville. Et là, c'est ma collègue Esther. Vous voyez, on a toutes nos spécialités. Et Esther entraîne les visiteurs dans cette rencontre du quartier épiscopal. Explique la vie, les chanoines, ce qu'il y avait. Et elle termine par le palais épiscopal. Vous savez ce que c'est que le palais épiscopal ?
C'est le musée des Beaux-Arts.
C'est le musée des Beaux-Arts. Et là, elle raconte l'histoire du bâtiment, mais également les collections. Donc, vous voyez, on passe différentes époques avec elle et c'est un moment absolument fantastique à vivre. Donc ça aussi, la visite cité épiscopale est à ne pas manquer.
C'est ça une ville, finalement. Il y a plus de morts, si j'ose dire, que de vivants, parce que
ceux qui nous ont précédés sont encore là.
Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et regardez ici, quand on est dans cette petite ruelle, la ruelle de la petite cordonnerie. Ça aussi, on l'explique lors de nos visites. Nos pèlerins, lorsqu'ils arrivaient, les chausses étaient usées, donc on venait voir le savetier, on venait voir le cordonnier, et on les ressemelait, les chausses. Et ici, ça vivait très bien. On s'interpellait. Alors, les clients rentraient peu dans les échoppes.
C'était comme ça. Ah oui.
C'était des marchés. Donc, on passait dans les rues, un petit peu comme nos marchés, avec les marchands ambulants.
Donc, hiver comme été.
Hiver comme été. Alors, nous arrivons ici, donc, là, dans la rue Olé, hein, la magnifique rue Olé. Ici se trouvait un apothicaire, par exemple, hein, là derrière, puisqu'on a la rue aux herbes, la rue du marché aux légumes, mais aussi aux épices.
Ah oui, les herbes médicinales, hein, c'est
voilà,
ça aussi.
Les herbes médicinales. Donc, on avait ici, on a un plan hein, qu'on montre. Hein, et là, j'indique qu'il y avait un apothicaire à cet endroit. Ici, cette rue Olé nous permet de voir une magnifique maison ici, 15e, avec ses fenêtres à meneaux. Et puis on a ici cette pente. Imaginez quand même qu'elle était beaucoup plus forte, la pente, puisque le niveau est monté. Et c'est dans cette rue où on a les caves les plus profondes. Alors, petite anecdote que je raconte toujours, là-bas au bout, juste à l'angle pour descendre vers le tertre Saint-Aimant, on a une maison, enfin, des appartements qui sont assez neufs. Et en fait, pendant la guerre, c'était une maison ancienne, un peu comme celle-ci, qui était là. Et alors que tout le monde était à la messe un dimanche matin, la maison s'est effondrée complètement sur elle-même. Elle s'est retrouvée au 4e niveau de cave.
Dernièrement, on a eu dans le quartier, pas loin d'ici, on a eu quelques mésaventures de genre.
Quelques aventures, et c'est pour cela d'ailleurs que tout ce qui est sécurité au niveau de la ville, la voirie, etc., travaille avec les archéologues parce que eux sont en train de faire toute la topographie du sous-sol. Et c'est vrai qu'on se rend compte, non, ce ne sont pas des souterrains, ce sont des caves réelles où on entreposait des produits du charbon, quand il y a eu le charbon, le bois aussi, pour se chauffer. Voilà, c'était utilisé. C'était des caves qui avaient leur utilité et en aucun cas des souterrains qui menaient à la crypte de la cathédrale. D'ailleurs, vous connaissez la petite histoire que je raconte aussi la nuit, la petite histoire de Noël en Beauce.
Ah non.
Alors, on dit que en Beauce, il y aurait de fabuleux trésors cachés. Mais des trésors incroyable. Des montagnes de diamants et d'or. Vous vous rendez compte ?
Oui, je m'en rends parfaitement compte.
Dans des grottes. Seulement voilà, il faut attendre le soir de Noël. Au premier coup de minuit, les pierres tournent. Eh oui, elles ouvrent des cavités. Et là, les plus téméraires descendent. Mais au premier coup de minuit, on ne voit rien. C'est au deuxième coup de minuit qu'on aperçoit quelques sac avec des pièces de cuivre. Vous avez envie de continuer ou vous repartez avec les pièces de cuivre ?
Alors là, on ne va pas les changer en or.
Non, il faut poursuivre.
Alors poursuivons.
Alors, troisième coup, vous allez avancer un peu plus loin, vous ne voyez toujours rien. Quatrième coup, ah, vous apercevez l'argent.
Vivement le cinquième coup.
Cinquième coup, faut avancer encore, c'est un peu plus étroit, donc plus difficile. Sixième coup, vous apercevez quelques pierres semi-précieuses.
S'il vous plaît, ne nous faites pas languir.
Eh bien, pour arriver à l'or, c'est le dixième coup. Et au diamant, le onzième. Seulement voilà, vous êtes trop loin pour remonter au douzième coup de minuit où la pierre se referme.
Ah, le piège.
Eh oui, faites bien attention. Et souvent, quand on raconte cette histoire, moi, je dis toujours « à l'année prochaine
!» Eh bien, rassurez-vous, nous n'attendrons pas Noël pour retrouver notre amie Véronique Domagalski, guide conférencière de l'Office du tourisme de Chartres Métropole, pour la suite de cette balade en été spéciale « Secrets et mystères de Chartres ». Bonne fin de semaine à toutes et à tous à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel. Cela va sans dire.